Je vais continuer de vous donner quelques aspects encore de cette petite topique sur l'un et le multiple. Je sais très bien que vous pouvez le lire dans le livre sur l'être et que je n'ajoute pas grand-chose à ce qui est donné, mais c'est pour être plus sûr que vous l'entendiez. Et que c'est quand même important, je crois, de se rendre compte de ce que peut représenter ce point de vue si important du problème de l'un dans Platon à partir du Parménide. Je crois qu'il y en aura très peu parmi vous qui liront la fin du Parménide. Ce serait quand même important d'essayer de comprendre ces diverses hypothèses qui se sont posées et qui sont toujours les hypothèses par rapport à l'un. Alors, vous verrez, je vous renvoie, hein, à ceux qui ont le courage, je vous renvoie donc à ce livre sur l'être, le second, 558 et suivant, et entre autres aux notes, qui vous donnent un petit résumé de la première hypothèse, de la deuxième hypothèse, et pour vous montrer que tous les problèmes se tournent autour de l'un. Et au fond, c'est l'un et l'être. Nous en avions vu un tout petit peu ensemble le mercredi, c'est pour ça que je ne veux pas insister trop, parce que c'est un problème difficile, mais important. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de suite le problème de l'un se traite par rapport à la participation et par rapport à la dialectique. C'est ça l'intérêt d'essayer de comprendre. J'essayerai de comprendre au terme, n'est-ce pas ? Mais je souligne maintenant, parce que c'est quand même quelque chose d'important à voir, cela. Donc, le problème de l'un fait, dans la perspective de Platon, joue un rôle très important, surtout à partir du Parménide. Alors, je n'insiste pas plus. Dans Aristote, le problème va être repris. Aristote ne peut pas se désintéresser du problème de l'un. Pour Aristote, la recherche de l'un est une recherche parallèle à celle de l'être. C'est ça qui est curieux. Vraiment une recherche parallèle, car l'être, ou ce qui est, le toon, et l'un, le toen, sont dits le plus universellement de toutes choses. Ils sont dits l'un et l'autre semblablement ou parallèlement. Alors c'est intéressant de voir que tout de suite Aristote voit que le problème de l'être et le problème de l'un sont parallèles, mais du côté du legetar. Et au fond, c'est peut-être ça la grande astuce d'Aristote. C'est d'avoir compris que du côté du legetai, il y a un problème parallèle de l'un et de l'être. Et que ce problème de l'être et de l'un, c'est vrai, du côté de l'attribution, est parallèle. Chaque fois qu'on attribue l'un, on peut attribuer l'être. Chaque fois qu'on attribue l'être, on peut attribuer l'un. Vous voyez, c'est astucieux parce que c'est reprendre le problème par rapport au Parménide. Le Parménide, lui, insistait de savoir si je peux attribuer l'être à l'un. Et si en attribuant l'être à l'un, je ne déroge pas complètement au problème de l'un. Est-ce que l'un est ? Alors, si l'un est, j'ajoute quelque chose à l'un. Si j'ajoute quelque chose à l'un, l'un n'est plus indivisible. Or, l'un est indivisible. Alors, est-ce que je peux ajouter quelque chose à l'un ? Donc, l'un n'est pas. Et si je ne dis que l'un n'est pas, alors, on ne voit plus très bien ce que ça signifie. Voyez, Platon confond le problème du legetai et du problème de la réalité. Alors ça, c'est un aspect qui est très important à saisir. Est-ce que ce n'est pas le propre de la dialectique ? pose des questions, parce que c'est à propos de l'un qu'on doit saisir la participation et le problème de la dialectique. Et donc il faut saisir ces problèmes-là dans leur fondement philosophique et dans l'apport de l'intelligence. Le legetai, c'est l'apport de l'intelligence. Aristote, au contraire, et c'est le propre de la pensée d'Aristote face à Platon, c'est de distinguer le domaine de ce que l'intelligence est capable de saisir dans la réalité et le problème de l'intelligence qui saisit cette réalité. C'est pour ça que pour Aristote, il y a une distinction entre le toeinein et le legetein. Et qu'est-ce qui fait le lien entre le toeinein et le legetein? C'est le tonoein, le fait de la pensée. Tandis qu'au contraire, chez Platon, ça n'existe pas. Ça existe, faisons attention, ça existe, oui, c'est sûr. Platon s'est sûrement posé le problème. Mais il n'a pas su le résoudre. Et ça explique combien on est constamment devant des confusions. Et ça explique le grand problème du Parménide. Ça explique toute la dialectique du Parménide. Et ça explique l'impasse devant laquelle se trouve. L'impasse de la dialectique chez Platon. Alors, c'est à l'égard du problème de l'un que, de fait, je crois qu'on peut dire, Aristote va nous donner la solution. Et c'est ça l'intérêt de l'un. Parce que l'un peut être le problème de toutes les confusions et le problème de la distinction. Pour Aristote, ça va être la solution qu'il va prendre. Mais une solution qu'il faudra essayer de comprendre. On ne va pas répéter Aristote pour le plaisir de répéter Aristote parce qu'on l'aime bien. Alors on ne va pas répéter Aristote en faisant la métaphysique, la philosophie première de l'un. Mais vous comprenez que c'est ça le problème qui va être très difficile à saisir. Vous avez donc le taux M, l'un, qui, à partir du Parménide, ce que j'ai essayé de vous montrer hier, à partir du Parménide, le taux, l'un, est comme au-delà de l'ousia. Et l'ousia, pour Platon, égale l'être intelligible. C'est à ce niveau-là que nous avons les formes en soi. Et c'est à ce niveau-là que se fait la participation. Pour qu'il y ait participation, il faut qu'il y ait diversité dans l'unité. Il n'y a pas de participation sans diversité, sans unité. Participation est impossible à penser sans la diversité, sans l'unité. Alors, on comprend comment tout l'effort de Platon sera essayer de comprendre que l'un fonde la participation. On va secouer, Parménide a secoué le problème de la participation qui était au niveau des formes et des formes visibles, des formes invisibles et des formes visibles. Tout l'effort de Platon, c'est de comprendre que la participation est d'abord au niveau des invisibles, c'est-à-dire des formes en soi, mais que pour qu'il y ait participation, il faut qu'il y ait un au-delà de la participation. La participation ne peut jamais être première, parce qu'elle implique une diversité et une unité. Et donc, il faut un au-delà de la participation. Et cet au-delà de la participation, c'est l'un. Et donc, l'un est au-dessus de l'être et de l'intelligible. C'est pour ça qu'on ne peut pas contempler l'un. On ne peut pas contempler. On peut le toucher, on ne peut pas le contempler. On contemple le bien. Et pourtant, le bien et l'un ne font qu'un. Platon ne va pas résoudre le problème, ça ne va pas résoudre le problème. Il saisit le problème, il saisit avec beaucoup d'acuité que la participation ne peut pas être première et donc il faut un fondement à la participation, il faut l'un. Mais il ne résout pas le problème. Il comprend que l'un est au-dessus de l'être et au-dessus de l'intelligible et donc qu'on ne peut pas contempler l'un. Mais il ne résout pas le problème puisque l'un, le rapport entre l'un et le bien, je vous ai dit,
Le bien était découvert, le bien en soi était découvert avant. Le bien en soi polarise la contemplation. Et le bien en soi et l'un sont au-dessus de l'ousia. Donc ils doivent s'unir. Mais la contemplation regarde le bien. Et l'un est posé comme une condition sine qua non de la participation. Pour que les formes en soi existent, il faut l'un. Mais je ne contemple pas. Vous voyez, c'est comme si l'un était vraiment la condition sine qua non. Une condition sine qua non, on ne la contemple pas. Elle est à l'intérieur du bien. Vous voyez, c'est ça qui est le gros problème. Je crois qu'au fond, en définitive, hein, il y a beaucoup de problèmes chez Platon qui demeurent difficiles. Mais est-ce que ce n'est pas le dernier problème de Platon, cette difficulté d'unir le point de vue du bien et le problème de l'un? Et que la seule solution sera donnée dans Plotin. Ça, nous allons le voir. Hein. Mais alors, entre deux, il y a Aristote. Aristote qui refuse les formes en soi. Aristote qui rétablit l'ousia égale l'être, ce qui est du point de vue principe. Alors, faisons attention, l'ousia, quand je dis l'ousia égale ce qui est, hein, c'est pas juste, hein. Vous comprenez bien. L'ousia, c'est le principe de ce qui est. Mais l'interrogation, le tiesti de l'ousia et le tiesti, et c'est ça qui est intéressant, l'interrogation du tiesti de l'ousia et l'interrogation du tiesti de ce qui est la même. Alors, le tiesti, c'est un legetai. C'est évident que c'est un legetai, le tiesti. Qu'est-ce que c'est? C'est un legetai. Donc, le legetai de l'ousia et le legetai du toan vont s'unifier. Puisque c'est la même interrogation. Je dis, c'est ce que Gilson n'a pas vu. Il n'a pas vu que c'était au niveau du legetai. Il n'a pas vu qu'au niveau de la réalité, l'ousia n'est pas ce qui est, n'est pas le toan. Il y a une différence au niveau. Alors, le legetai a ceci tout à fait particulier, c'est que d'une certaine manière, il dépasse l'être. Puisqu'il unifie l'ousia et le toan par l'interrogation. Par l'interrogation, il y a une unité qui se fait entre l'ousia et toan. C'est très curieux ça. Alors, le legetai va unifier aussi l'être et l'un. Du côté du legetai, il y a un parallélisme entre l'un et l'être. Mais le legetai n'est pas ce qui est. Je crois que c'est là où nous découvrons, si vous voulez, l'intuition d'Aristote face à Platon. C'est de distinguer le legetai, la manière de saisir, la manière de dire, et la réalité. La réalité est plus que le legetai. Alors, le legetai peut sembler unir des choses qui, dans la réalité, sont distinctes. Le principe, l'ousia, le principe de ce qui est, et ce qui est, ne s'identifie pas. Ce n'est pas la même chose. La philosophie première d'Aristote n'est pas une ousiologie, comme certains l'ont dit. N'est-ce pas ? C'est pas une ousiologie, parce que de fait, l'être, ce qui est plus que l'ousia. Et l'ousia n'est qu'un élément, un principe, plus exactement, de ce qui est. Mais il y a à côté l'acte. Alors, vous voyez que du côté du legetai, du côté de l'interrogation, il y a une unification. L'interrogation peut unifier certaines choses qui, dans la réalité, sont distinctes. Le legetai, d'une certaine manière, dépasse et, d'une autre manière, est dépendant de la réalité. Alors que Platon avait identifié les deux. Alors, on va retrouver, par rapport au problème de l'un et du multiple, ce problème de voir que l'un et le multiple ne s'identifie pas à l'être, bien que le legetai de l'un et du multiple va être parallèle à celui de l'être. voyez, vous retrouvez des problèmes analogues. C'est ça que je veux montrer, simplement, pour montrer que, de fait, Aristote a compris la différence du legetai et du lettre. C'est pour ça qu'il peut dire que le toon legetai polakos. Le ce qui est se dit de multiples manières. Alors, ce legetai polakos, qui est une chose tout à fait typiquement aristotélicienne et qui est très intéressante à voir. C'est de voir qu'à l'intérieur du legetai, vous avez une diversité de ce qui est. Alors que ce qui est dans sa réalité est un. Et alors, nous allons essayer de comprendre ça. Dans la philosophie première, hein, je regarde tout de suite dans la philosophie première, parce que je pourrais regarder le problème de l'un en physique. Il existe. Y a-t-il un mouvement? Y a-t-il de multiples mouvements? Je pourrais le regarder dans le De Coelo, l'unité du monde et la diversité des corps célestes. Je pourrais le regarder dans le Degenerazione et le Corruptione. Le monde physique est avant tout multiple. Et cependant, il y a une unité. Mais c'est pas là où je vais découvrir vraiment la position d'Aristote face à Platon. Je découvre vraiment la position d'Aristote face à Platon dans la philosophie première. Au livre des Apories, Aristote se pose au sujet de l'un des questions dont il souligne qu'elles sont difficiles entre toutes. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. C'est ce qu'il y a de plus difficile, les questions de l'un et du multiple. Parce que c'est là où toutes les confusions se font. C'est le lieu des confusions. C'est curieux. Et le lieu de la confusion primordiale entre le legetai et le toainai. C'est ça qu'il faut saisir. C'est que la confusion fondamentale entre le dire, donc ce que l'intelligence connaît, il exprime, et l'être, cette confusion qui est terrible, parce que c'est la confusion que nous retrouvons dans toute pensée idéaliste, se fait au niveau de l'un. L'un est comme la rencontre, si vous voulez, de l'être et du tolégéda. Il y a une rencontre qui se fait là. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. C'est pour ça, je crois qu'Aristote, dans les apories, voyez, Métaphysique, livre Bêta, chapitre 4, 1001, A4. La question la plus difficile de toutes et la plus nécessaire pour connaître la vérité, c'est dit explicitement, la plus difficile de toutes et la plus nécessaire pour connaître la vérité, c'est de savoir si l'être et l'un sont les substances des êtres. Savoir s'il y a identité entre les deux. Et si chacun d'eux n'est pas quelque autre être que respectivement l'être et l'un, ou s'il faut chercher ce qu'est l'être et l'un en considérant qu'une autre nature leur sert de sujet. Oui, c'est la mélasse. Hein? De voir exactement quels sont les rapports, dites ça simplement, la question la plus difficile et la plus nécessaire pour la vérité, c'est de savoir exactement les rapports entre l'être et l'un, entre l'être et l'ousia, et la substance, et l'un et l'ousia. C'est la question la plus difficile et la plus fondamentale. Alors Gilson est tombé dans le panneau, en voulant commenter. Et après Gilson, parce que Gilson a une... Je prends Gilson parce que c'est une autorité. Alors il faut toujours s'attaquer aux autorités, vous savez bien, en philosophie, n'est-ce pas ? Il faut toujours s'attaquer aux autorités en voyant que les autorités sont source, après, de répétition. On répète, Gilson a dit ça, donc c'est vrai. Et non, attention. Est-ce qu'il a regardé vraiment Aristote? Est-ce qu'il l'a vraiment connu? Ou est-ce qu'il l'a vraiment regardé attentivement? Alors, il faut reconnaître que nous touchons là, dans l'aristotélisme, dans la pensée d'Aristote face à Platon, le problème le plus difficile. Voir l'écart qui existe, je dis l'écart, mais en même temps, la relation, l'écart qui existe entre l'être et l'un. Alors, ces questions sont reprises, du reste, dans le livre Iota. Qu'est-ce que c'est que l'un? Comment faut-il le concevoir? C'est dit explicitement dans le livre Iota, chapitre 2. Car Aristote
se trouve en présence de deux traditions, pour les pythagoriciens, puis pour Platon, l'un est comme une ousia. Ou au-delà de l'ousia. C'est plus juste de dire ça. Pour Platon, l'un est au-delà de l'ousia. Pour les pythagoriciens, l'un est une ousia. Et pour Platon, l'un est au-delà de l'ousia. Pour les physiciens, l'un est plutôt attribué à quelque chose, à un sujet. Ne faudra-t-il pas, à leur instar, ramener l'un à quelque chose de plus connu, à l'amitié, à l'air, au feu, à l'infini, Héraclite, Empédocle, et cela. Donc, Aristote pose la question. Il le sait que c'est la question la plus difficile. Dans le livre Gamma, examinant ce qui fait l'objet de la philosophie première, ce qui est en tant qu'être, et montrant que celle-ci doit traiter toutes les espèces de l'être en tant qu'être, Aristote ajoute que puisque l'être et l'un sont corrélatifs et se suivent, akolutei, hein, vous pouvez le traduire de diverses manières, c'est être acolyte, hein, c'est pour ça que c'est, on voit très bien ce que c'est. Alors l'acolyte de temps en temps précède, de temps en temps suit. Enfin, il ne faut jamais l'oublier, ça dépend des cérémonies. Et puis ça dépend surtout s'il est distrait. Alors quand il est distrait, il court par derrière. Non. Et quand il est très 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 présent, il est devant. Alors ça peut être la même chose. Je crois qu'il faut prendre l'acolyte comme ça. Akolutei, donc l'un d'une certaine manière précède, de temps en temps suit. Ça dépendra des situations. Mais c'est intéressant d'avoir la petite image de l'acolyte, hein, de voir ça, c'est akolutei. Donc, puisque l'être et l'un sont corrélatifs, sont acolytes l'un de l'autre, comme le principe et la cause, la science de l'être en tant qu'être sera aussi la science de l'un en tant qu'un. Alors ça, c'est très important. Vous voyez qu'en disant ça, Aristote montre tout de suite que c'est par l'être que j'atteins l'un. Alors évidemment, là, il est en rupture complète avec Parménide de Platon. Et il le fait consciemment. Et c'est là où on voit comment Aristote fait tomber d'un seul coup toute la participation de Platon. Il le dira dans la métaphysique, hein, que la participation n'explique rien. Que la participation n'est pas scientifique. C'est ça que ça veut dire. La participation n'est pas scientifique. C'est la cause qui est l'âme de la science. C'est pas la participation. Ce sont des coups qui sont très durs à encaisser. Il faut voir pourquoi il le dit et comment il le dit, parce que c'est quand même très important. Il faut voir là quand même qu'il y a une rupture très nette et très consciente entre la position d'Aristote et celle de Platon. Il vous dit, c'est à l'égard de l'un qu'on le voit le mieux. En effet, il revient au même de dire homme, ou un homme existant. Vous retrouvez le legetai. Le legetai unit l'existence et l'un. L'un n'est rien d'autre en dehors de l'être. Il n'est rien d'autre en dehors de l'être. L'un est au-dessus de l'être. L'affirmation juste inverse. De plus, l'ousia de chaque chose est une, non par accident, de même, elle est quelque chose qui est. Elle est un onti. Il y aura donc autant d'espèces de l'un qu'il y a espèces de l'être. Et l'étude du tiesti de ces espèces fera l'objet d'une science d'une façon générique une. Ainsi, c'est une même science qui étudiera l'identique et le semblable. Alors vous voyez que ici, dans le livre Gamma, Aristote situe exactement au niveau de la science, donc dans une perspective critique, qu'il n'y a pas de science propre de l'un. Qu'il n'y a pas de science propre de l'un. La science de l'être sera la science de l'un. Et vous ne pouvez pas séparer l'un de l'être. Pourquoi ? Il est acolyte. Mais il ne fait que l'affirmer, hein, là.
Et la seule raison qu'il donne, c'est au niveau du legetam. Il revient au même de dire homme et un homme. Je ne dis rien de plus quand je dis l'homme existe et l'homme est un. Je dis rien de plus, vous voyez. Attention, je dis quand même quelque chose de plus, puisque dans le langage, je dis un homme. Mais pour le connaître scientifiquement, je ne dis rien de plus. Aristote souligne, et c'est important aussi de le voir, toujours dans ce même lieu, Gamma 1004 à 910. La science des opposés étant une, et le multiple étant opposé à l'un, la philosophie première étudiera aussi l'autre, le dissemblable, l'inégal, et tous les autres opposés qui se disent. Soit selon ceci, soit selon le multiple et l'un. Donc, science de l'un par l'être, science des opposés, science du multiple. Il n'y a pas une nouvelle science qui étudie le multiple. La science des opposés étant une et le multiple étant opposé à l'un. C'est la même science qui étudiera la philosophie première, qui étudiant l'être, étudiera le multiple et étudiera les opposés. Alors, c'est dans le livre Yotta. Avant, regardez également dans le livre Delta. Il faut toujours regarder Delta. Chapitre 6. Aristote précise quelles sont les diverses significations de l'un. Alors, ça, il faudrait le faire très attentivement et le faire en parallèle avec les significations de l'être, Aristote précise quelles sont les diverses significations de l'un. Un signifie soit l'un par accident, soit l'un par soi. Donc une distinction qu'il a déjà faite au niveau de l'être. L'un par accident, par exemple, Coriscus, le musicien, Coriscus musicien, sont une seule chose, car il y a identité entre ces expressions. Bon, ceci intéresse le sophiste, mais non pas le philosophe. Le sophiste s'intéresse aux unités accidentelles. Le philosophe rejette les unités accidentelles. Ça, c'est la grande perspective d'Aristote, que quand je suis en face de quelque chose qui est purement accidentel, ça n'a pas d'intelligibilité. Ça n'a pas d'intelligibilité scientifique. Donc, je le laisse tomber. La seule chose que regarde le philosophe, c'est l'un par soi. L'un par accident, il le laisse tomber. Le sum bebekos, l'un par accident. Vous voyez, alors c'est de savoir si quand je dis l'un est-ce que c'est une unité par soi ou accidentelle? Vous voyez, c'est les questions que justement le sophiste ne pose jamais. Vous voyez que c'est une question du legetam. L'un par accident, qui est dit par accident, l'un qui est dit par soi. Il faut tout de suite faire cette distinction. Si je ne fais pas cette distinction, je vais me mettre dans une position impossible. Alors, est un par soi, ce qui est par continuité. Est un par soi, quand le sujet ne diffère pas spécifiquement. Ainsi, on dit que le vin est un, et que l'eau est une, en tant qu'indivisible selon l'espèce. Kata to eidos. Il y a une unité spécifique. C'est pour ça qu'on dira le vin est un. Le vin qui est dans le tonneau, ou le vin qui est dans mon verre, il est un. Ou l'eau qui est dans la bouteille et qui est dans mon verre est une. Parce qu'elle est une, non plus par continuité, mais spécifiquement. Il y a l'unité par continuité, qui est l'unité qui se fonde sur la quantité, et puis l'unité spécifique. Sont encore un par essence les êtres dont le genre est un, quoique différent par les différences opposées. Par exemple, le cheval, l'homme, le chien forment une unité. Ils sont tous des animaux.
Enfin, un par essence se dit encore des choses dont la définition, le logos, qui exprime la quidité, le totienainam, sont indivisibles par rapport à un autre, qui manifeste la quidité de la chose. Après avoir énoncé ces diverses modalités de l'un, alors ça, ce serait très intéressant, hein, de bien voir ces diverses modalités de l'un et bien les mettre en parallèle avec l'être pour voir que tout de suite, dans cette hiérarchie, j'ai une hiérarchie qui est propre à l'un. Et la continuité est plus proche de l'un que de l'être. Ça, c'est très vrai. La continuité est une modalité de l'un. Je ne dirais pas que la continuité est une modalité de l'être. De l'être par soi. Oui, c'est la quantité. C'est sûr, c'est la quantité. Mais avant la quantité, il y a la substance. Vous voyez comme c'est curieux. Je vois tout de suite. Puis ensuite, c'est l'un selon le point de vue spécifique, kata to aidos. Puis c'est l'un générique. C'est pas du tout le point de vue de l'être. Vous voyez, comme l'un pénètre au niveau logique. Vous avez un selon le genre. Ça, c'est l'un logique. Je rassemble des quantités dites diverses en les unifiant par le point de vue de l'universel et de l'universel générique. Et ça fait une modalité particulière de l'un. Et alors enfin, le point de vue spécifique, le point de vue du logos. Il faut réfléchir hein, sur ces quatre unités. Réfléchissez bien là-dessus. Ça vaut la peine. Parce que c'est toujours cette division, ne l'oublions pas, c'est toujours la division qui me met en présence du caractère particulier d'une notion. Après avoir énoncé ces diverses modalités d'unité, Aristote essaie de saisir ce qui les unit. Parce que ce sont des diverses modalités de l'un, donc il y a quelque chose de commun. Elles sont toutes une. D'une manière générale, dit-il, tout ce qui est indivisible, en tant qu'il est indivisible, par cela même est dit un. Donc nous avons ici la première réflexion philosophique sur l'un, c'est le point de vue de l'indivisibilité. L'être en tant qu'être, ce n'est pas l'indivisibilité. L'être en tant qu'être, c'est premièrement l'ousia. C'est premièrement l'acte. Ce n'est pas l'indivisibilité. Les êtres auxquels l'unité est attribuée au sens primordial, protos, sont ceux dont l'ousia est une, soit par continuité, soit par l'espèce, soit par le logos. À l'opposé, nous mettons au nombre des choses multiples les êtres non continus, ceux qui ne sont pas un spécifiquement, et ceux dont la définition n'est pas une. Donc vous avez tout de suite un et le multiple. Vous voyez comme c'est curieux. Les opposés interviennent tout de suite au niveau de l'un. Les opposés n'interviennent pas tout de suite au niveau de l'être. Ceci, c'est pour essayer de comprendre l'intelligibilité différente de l'être et de l'un. Ce sont des petites approches, si vous voulez, pour voir qu'il y a quelque chose. Il y a un parallélisme. Il est acolyte, mais cet acolyte a quelque chose de particulier. Il n'a pas tout à fait la même démarche. Il est plus petit, hein. Il n'a pas tout à fait la même démarche. Alors, le rythme de l'être n'est pas le rythme de l'un. Il faut donc saisir et voir la différence qui existe entre le rythme de l'être et le rythme de l'un. Alors là, je me sers de la division. Je me sers des modalités différentes de l'un. Et je m'aperçois que les modalités différentes de l'un ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'être. Et je m'aperçois tout de suite que dès que je parle de l'un, tout de suite l'opposé arrive. Il n'y a plus de rivalité du côté de l'un que du côté de l'être. La rivalité naît plus vite du côté de l'un. C'est curieux. Alors les philosophies néoplatoniciennes sont plus rivales que les philosophies qui regardent l'être. Ce serait curieux de regarder ça. La rivalité vient plus vite du côté de l'un. Comme si l'un
ne se suffisait pas à lui-même. On est rival quand on ne se suffit pas à soi-même. Quand on se suffit à soi-même, on attire des jalousies, mais on n'est pas rival. Ça nous est égal. Qui même me suit, et puis c'est tout. On a l'autonomie absolue. Tandis que l'un n'a pas d'autonomie. C'est curieux, ça. Alors, tout de suite, l'opposition. Il n'a pas d'autonomie aussi forte que l'être. Il a l'autonomie par l'être. Il est acolyte. Alors, toutes les philosophies qui prennent l'acolyte à la place de prendre le principe, vous comprenez, sont perpétuellement dans un état de rivalité. C'est curieux. Ça, c'est intéressant à saisir, ces choses-là, parce que là, on voit bien le point de vue du décrochage de l'un par rapport à l'être. Aristote examine ensuite ce qu'est l'être de l'un. Le to eini einai, n'est-ce pas la fameuse expression qui est très très jolie, qu'on retrouve à Aristote, il dira le to anthropo einai, l'être à l'homme. Il dit l'être à l'un. Quel est l'être à l'un ? Vous ne vous posez pas la question de savoir quel est l'un à l'être. Tandis que vous vous posez quel est l'être à l'un. Il faut se poser les questions. Mettez-les en parallèle. Alors, tout de suite, ça vous on dit, tiens, c'est curieux. Là. Le taux, l'expression est très très jolie, le taux eini einam. Le taux eini einam. Donc, le taux einam à l'un. Qu'est-ce que c'est qu'à l'un ? Quand vous prenez Alain, quand vous direz anthropo, c'est cette expression que Tricot n'a absolument pas compris, et alors il a dit la cuidité. C'est pas du tout la cuidité, c'est juste l'inverse, c'est le toinal. C'est l'être Alain. Alors l'être Alain. Alors faites l'inverse et essayez, ça c'est pas dans Aristote, mais pour vous, hein. Faites l'inverse et mettez le toinal N. Ou le taux onti, si vous voulez, ce serait plus juste, hein, le taux onti. On va avoir une expression parallèle à l'air. C'est là ce qui est très curieux aussi, c'est que l'un, c'est l'un. Vous avez, c'est pas un verbe. Ça, Aristote n'a pas assez noté. Mais on pourra le noter, ça. Parce que c'est intéressant de voir que l'un n'est pas un verbe. Alors que l'être est un verbe. Ça signifie quelque chose de très important. Ça signifie quelque chose de très très important. Alors, vous le voyez tout de suite ici. C'est ça que je dis, en faisant les deux, et quand Aristote dit ça, il montre bien que vous pouvez qualifier l'être à l'un. Autrement dit, il y a une distance, une différence entre l'être et l'un. L'être de l'un, et d'être un certain principe d'un nombre. Ça, c'est Aristote qui dit ça. L'être de l'un et d'être un certain principe d'un nombre. La mesure première, en effet, est un principe. Car ce par quoi, en premier lieu, nous connaissons est la mesure première de chaque genre. Le principe du connaissable en chacun est donc l'un. Ça, c'est un petit passage très important. Hein. Très important. Donc, c'est toujours c'est à propos de Delta 6, 1016, B 18, 21. C'est très, très important, ce petit passage. Vous voyez, c'est une réflexion qu'Aristote fait de l'être par rapport à l'un, la comparaison. Comment pouvons-nous essayer de comprendre? Ils sont acolytes, ils peuvent être rivales. Comment comprendre le rapport entre l'être et l'un ? Comment comprendre ce rapport entre l'être et l'un ? Eh bien, l'un a une certaine priorité sur l'être par rapport à la connaissance. Alors, ça touche le point faible. C'est très intéressant. Là, il répond directement par Parménide. Il y a une certaine priorité de l'un par rapport à l'être au niveau de la connaissance. Et c'est pour ça que du côté de la connaissance, l'un va être d'une certaine manière arché. L'un est arché du côté de la connaissance, du côté de l'intelligible. L'intelligible, donc ce que nous connaissons en premier lieu, c'est l'un. Et c'est dans ce sens-là que cet arché sera mesure. Pourra mesurer. Alors, vous comprenez que vous saisissez là le propre du néoplatonisme et du platonisme. C'est que vous projetez sur le réel ce qui est vrai du côté de la pensée. C'est toujours la critique que saint Thomas fait à Platon et au néoplatonisme. La critique que fait saint Thomas, c'est une critique très très juste. Je crois que c'est très très juste, c'est saisi avec beaucoup de netteté. C'est en fonction de cette critique qu'on ne peut pas dire que saint Thomas est un néoplatonicien. Parce que saint Thomas ferait son autocritique alors à ce moment-là. Saint Thomas dit textuellement, Platon a confondu l'ordre de l'intelligible et l'ordre de l'être. Il a dit ça dans son commentaire des métaphysiques, hein, il le reprend tout le temps, il le reprend du reste souvent, ça. Ce serait intéressant de voir ça, une petite thèse là-dessus, ce serait très intéressant. La critique de saint Thomas sur le néoplatonisme et la manière de connaître de Platon. Alors il fait toujours cette chose-là, le néoplatonisme, le Platon a confondu l'être et la manière de connaître l'être. Et on projette alors la manière de connaître l'être sur l'être. Oui, phénomène de projection, métapsychologique. Le néoplatonisme, c'est un métapsychologisme, où on considère que la manière dont nous connaissons, c'est la réalité. Alors vous comprenez ici, si vraiment l'un est avant l'être au point de vue de la connaissance, si la première chose que je connais c'est l'un, et si je fais une métapsychologie, je projette mon conditionnement intellectuel sur le réel, et le réel c'est ce conditionnement intellectuel, je dirais donc que l'un est avant l'être. J'explique comment on peut arriver à cela, c'est ça qui est intéressant. Aristote critique Platon, mais Aristote explique comment on est arrivé à cette notion. Et alors, ce petit passage est particulièrement important, n'est-ce pas ? Parce qu'il est beau, du reste, il est très, très dense. Hein? Alors, le to eni einai, l'être de l'un est d'être un certain principe d'un nombre. La mesure première, en effet, est un principe, ce par quoi, en premier lieu, nous connaissons, et la mesure première de chaque genre. Le principe du connaissable en chacun est l'un. Le principe du connaissable en chacun est l'un. Réfléchissez là-dessus. Le principe du connaissable en chacun est l'un. On pourra donc préciser ce qu'est l'un dans les diverses catégories de ce qui est. Ce sera toujours ce qui est le plus simple, ce qui est mesure, comme le demi-ton, et la voyelle ou la consonne. Et vous retrouvez le ba, n'est-ce pas, d'Aristote, béa, c'est très simple. Hein? Alors vous comprenez tout de suite, ce sera ce qui est le plus simple. Et là, vous voyez, là, il y a le point de vue de la simplicité. Ce qui est le plus simple, ce qui est mesure, comme le demi-ton, la voyelle et la consonne. Ce sera toujours l'indivisible, soit selon la qualité, soit selon l'espèce. Vous pourriez dire selon chacune des catégories. Selon chacune des catégories, vous pouvez vous poser le problème de l'un. Concernant l'indivisible selon la quantité, il faut distinguer ce qui est indivisible selon la quantité en tant que tel, ce qui est indivisible absolument, sans position, l'unité. Ce qui est indivisible absolument, mais avec position, le point. Ce qui est divisible, ce qui n'est divisible que selon une dimension, la ligne. Ce qui est divisible selon deux dimensions, la surface. Enfin, cette fameuse chose qu'Aristote reprend tout le temps pour essayer de comprendre où se situe l'unité par rapport au domaine de la quantité. Et dans le domaine de la quantité, vous avez divers aspects. Alors, ce sera dans le livre Iota qu'Aristote considère l'un dans son rapport avec l'être. L'un, on l'a vu, se prend en plusieurs sens, qui peuvent se ramener à quatre sens principaux. Le continu, le tout, le logos, ce sont les différents sens, et en dernier lieu, le point de vue de l'être, c'est-à-dire le point de vue de la quidité de l'être. Bon, nous continuerons ça la fois prochaine. J'irai vite, hein, dans cette topique. Hein. Je ne voulais pas la quitter rapidement. Je voulais simplement rappeler Platon et Aristote, parce que c'est essentiel de comprendre ces deux positions par rapport au problème de l'un et du multiple.